Aujourd'hui à l'émission, le père Martin Lagacé nous livre son témoignage de conversion et Simon Lessard nous a préparé une chronique « Louange pour les nuls ». Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cette émission. Il sera question de musiciens qui se tournent vers Dieu. Et nous avons avec nous Brigitte Bédard. Allô!
Salut Antoine, ça va?
Ça va très bien. Aujourd'hui, tu nous fais découvrir...
Sainte-Cécile de Rome.
C'est une femme forte,
ça. Hein? Elle avait du power, elle avait du torque.
Ah ouais?
Comme on dit en bon français. Ouais. Une martyre, mais patronne des musiciens, des poètes, des luthiers et... Voilà, tous ceux qui sont autour de la musique.
Pour cette émission, justement, sur le thème de la musique. Ouais. Merci d'être là, ça va être un peu plus tard dans l'émission. On a aussi Simon Lessard. Bonjour Simon.
Allô Antoine.
Tu joues d'un instrument, toi Simon?
Pas vraiment, ben je chante. C'est peut-être même le plus noble de tous les instruments que Dieu lui-même a créé, la voix.
Ça dépend comment tu chantes.
Il paraît que Pierre-Giorgio Frassati chantait le Bienheureux, là. Il chantait très fort, mais très faux aussi.
Ah, donc, il est saint pareil?
Non, Bienheureux. Il est saint pareil, comme quoi il y a de l'espoir pour tout le monde au royaume des cieux.
Ah, ben, gloire à Dieu. Simon, aujourd'hui, tu abordes le terme ou le concept de la louange.
Oui, la louange. Convaincu, Antoine, que c'est le secret de la joie chrétienne. Donc, on va faire un petit traité pour les nuls. Je vous regarde, vous avez de l'air pas mal nul ici.
Merci.
Là. Donc, j'ai pensé à vous. On va aborder la louange. Puis, j'ai bien hâte d'entendre aussi la place de la louange dans votre vie.
Ça va peut-être être déçu. J'espère que non. Bon, et on a James Langlois. Bonjour, James.
Salut, Antoine.
Ça fait longtemps.
Oui, je suis vraiment content d'être de cette émission où on va parler de foi et de musique parce que
musicien,
Dieu sait que je suis un homme de foi et de musique. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours dit que j'aurais aimé être musicien, mais le Seigneur m'a préservé de ça parce que je suis sûr que je me serais perdu dans la musique.
Tu joues de la guitare?
Je gratte de la guitare.
Tu grattouilles.
On peut dire ça comme ça.
James, pour débuter l'émission, peut-être sur une bonne note, celle que tu veux, là, un fa ou un mi.
Moi, j'aime bien le do.
Le do, OK. Alors, tu as réussi à nous dénicher des musiciens qui ont, à un certain moment de leur parcours, rencontré Dieu et ont vécu une conversion.
Oui, je vous en ai déniché trois qui m'ont intéressé particulièrement. Mm-hmm. Le premier, c'est Brian Head Welch, qui était le guitariste et le cofondateur du groupe de metal Korn, hein, qui était très populaire autour des années fin 90, début 2000. Moi, j'écoutais leur album Follow the Leader, en fait, leur cassette dans mon Walkman en cinquième année. Et puis...
En cinquième année.
Puis, donc, Brian, en fait, dès les débuts de sa carrière, il a commencé à consommer de la méthamphétamine, aussi appelée speed, et il a sombré là-dedans pendant plusieurs années, assez qu'en 2005, sa femme l'a quitté. Il s'est retrouvé dans une grave dépression, et c'est à ce moment-là qu'il a dit « Jésus, si tu es vrai, prends ma dépendance ». Et il a commencé à sentir la présence de Dieu d'une manière très forte, tellement qu'il s'est converti. En fait, il est devenu un chrétien évangélique. Et puis, il a quitté Korn pendant quelques années. Il a parti sa carrière solo, mais il a réintégré Korn 13 ans plus tard, en 2013. Et moi, je trouve que c'est impressionnant parce que, tu sais, avoir une carrière comme ça dans un groupe de métal...
Des tournées internationales,
c'est ça,
c'est gros. Ouais.
Avec une image, tu sais, les tatous, tout ça. Puis là, dire finalement, j'ai rencontré Jésus-Christ, c'est quand même fort.
Et il l'assume publiquement. Là,
encore aujourd'hui, il a fait un témoignage vidéo. Là. Vous savez, les témoignages sur les sofas, là, premier. Là, on l'a connu comme ça, entre autres. La deuxième personne très connue, en fait, surtout pour la génération de Brigitte.
Ah, merci! J'aime ça quand tu me pointes comme ça.
C'est Bob Dylan, hein, qu'on connaît à cause du fameux Knocking on Heaven's Doors.
Dis-moi pas!
Et puis, qui était de confession juive à sa naissance, mais dans les années 70, il est devenu ce qu'on appelle un « born again Christian », donc ceux qui croient beaucoup au fait de reconnaître Jésus et qu'on renaît de nouveau à ce moment-là.
Selon la parole de Nicodème, là, si je me rappelle.
Exact. Mm-hmm. Et il dit qu'il était sur scène et quelqu'un avait lancé une croix en argent sur la scène. Il l'a prise dans sa poche et pendant un autre spectacle, il l'avait encore dans ses poches. Et il s'est senti très interpellé par cette croix-là. Assez qu'il dit plus tard avoir rencontré Jésus, il y a eu une espèce d'apparition mystique, là, je ne sais pas trop.
Tout ça grâce au fait qu'il ne fait pas son lavage souvent. Là, il y avait
c'est ça.
Mais
Ouais, sans doute, là, mais tu sais, les rockstars. Mais il a suivi une formation chrétienne là, dans la Vineyard Church aux États-Unis. Il a sorti trois albums gospel. Ensuite, il est retourné un peu à ses habitudes musicales Il a touché à beaucoup de styles, mais bref, en 2022, les gens se questionnaient à savoir s'il est encore chrétien. Il a gardé ça un peu quand même sous silence, mais en 2022, le Wall Street Journal a posé une question importante à Bob Dylan en lui demandant « Comment t'occupes ton temps? » Tout ça, il a dit que lui, il priait beaucoup, il méditait beaucoup, il lisait la Bible, que pour lui, il croyait dans la rédemption, dans le salut des âmes, etc., que les saints, il priait les saints, etc. Donc, on voit que sa foi... même s'il n'a pas continué de faire de la musique chrétienne en tant que telle, est encore très présente. Là. Puis de ces années-là, hein, il y en a d'autres. On parle de Bruce Springsteen, Johnny Cash, Elvis, Edith Piaf. J'en passe comme ça rapidement. Là.
Et un petit dernier peut-être?
Pour... Andrea Bocelli, qui est plus connu, oui, hein, qui a 62 ans. Mais aujourd'hui, il est né avec un glaucome congénital. Il a perdu la vue à 12 ans. Il dit qu'il attribuait cette épreuve-là à un dessein supérieur. Et ensuite, il a vécu quelques années dans l'agnosticisme, on dit. Puis, c'est en lisant Tolstoï qui est comme revenu à sa foi. Bon, italien, de naissance, on se doute que ça fait partie de sa vie. Et il y a d'ailleurs un film autobiographique, La musique du silence, qui est sorti en 2017, que j'ai vu, qui n'est pas un très bon film, là, mais qu'on voit beaucoup d'éléments de foi dans sa vie. On sait qu'il chante constamment pour le pape. Puis, en 2017, il a écrit un texte sur les réseaux sociaux avec le hashtag Faith, dans lequel il disait « La foi est un don, je remercie le ciel de l'avoir reçu ».
Merci beaucoup, James, pour ces portraits. C'est quand même édifiant, puis ça ravigore notre foi.
Mais tu sais qu'Edith Piaf était, quand elle était récupérée par, dans un espèce de... Ben, un hospice, un bordel, en fait.
Ouais, ouais.
Elle a perdu la vue.
Au Montmartre.
Voilà. Ouais. Et puis, c'est en priant Sainte-Thérèse de Lisieux.
Ah, ouais.
Toutes les prostituées ont prié Sainte-Thérèse de Lisieux, puis elle était guérie.
Exact.
Ah, non, je savais pas ça. Quelle belle anecdote.
Ouais.
Merci, Brigitte. Merci, James, aussi, pour ce topo. Accueillons maintenant notre invité du jour. Il était punk et il est maintenant prêtre, le père Martin Lagacé. Père Martin Lagacé, bonjour et bienvenue en N'est pas du monde.
Merci de m'avoir invité.
Très heureux de vous accueillir. Vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel depuis quelques années quand même, le nom exact.
29.
Ah, quand même, wow! Alors, après un passage en France, c'est à Québec que vous posez vos pénates pour poursuivre votre ministère auprès de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin.
Tu sais que les pénates, c'est des idoles païennes?
Oh, pardon!
Parenthèse sur
Vous posez vos bagages.
Oui, c'est ça.
Alors, j'ai devant moi clairement un homme serein, joyeux, mais pour arriver à ce point, il y a eu tout un parcours plus houleux. Partons du début, peut-être par Martin Lagacé, d'où vous venez. Comment commencer ce parcours de foi qui nous mène à aujourd'hui?
Ah, ben, moi, j'ai grandi dans un milieu catho des années 60. Mon père a été organiste d'église toute sa vie. Donc, j'aimais bien Jésus quand j'étais petit. Je priais pour que les Canadiens gagnent, puis ça marchait.
T'as des bonnes
faudrait que je m'y remette.
Ouais, ah ouais. Hein, ça fait longtemps que t'as prié pour les Canadiens.
Ouais. Et puis, voilà. Puis j'ai eu, quand j'avais 6 ou 7 ans, je suis allé au cinéma. Mes parents m'ont amené voir Ben-Hur. Et Ben-Hur, ça a été ma première rencontre avec Jésus. Et on voit presque pas Jésus dans ce film. C'est assez étonnant. Comme mise en scène, c'est génial. Ouais. Mais il hante le film. Puis quand je l'ai vu mourir sur la croix, je me suis dit, tiens, ce gars-là, parce que j'avais déjà une souffrance intime en moi, je me suis dit, ce gars-là, il me comprend. Je ne sais pas, ça a été un premier contact avec lui. Après, bon, il y a eu d'autres péripéties avant que je retrouve ça. Ouais.
Parmi lesquelles, péripéties, il y a eu un
passage? Après, moi, j'ai eu l'adolescence, ouais. Tout ça, puis dans un Québec qui se décrit...
Hein? Comment ça s'est passé, l'adolescence?
Tu veux vraiment savoir?
Absolument.
Oui!
C'est pas ça le
but. On sait que c'est obligé, j'en retourne.
C'est pas une émission pour enfants. Okay.
Non, mais j'ai commencé à fumer toutes sortes d'herbes exotiques, puis à faire du rock'n'roll avec mes chums dans le garage, puis j'allais plus à la messe, je priais plus. Pourtant, je me considérais comme croyant. J'étais dans une école catholique officiellement. Puis un jour, un de mes chums m'amène au restaurant, puis il partait en voyage longtemps, on avait pris un bon coup, puis on était sur les remparts de Québec, je me rappelle, puis il me dit, je suis désespéré, je pense que je vais me suicider. Puis là, j'arrive comme pour dire, ben, accroche-toi à Dieu, tu sais, normalement, c'est ça que j'aurais dit. Puis là, c'est comme une branche qui a craqué. C'est comme si c'était assis sur moi, qui était une branche desséchée. Je priais plus, j'allais plus, je me confessais plus. En fait, je me suis aperçu que j'étais aussi désespéré que lui, en fait. Mm. Et là, ça a été le début d'une descente aux enfers. Puis j'ai fait ma recherche de sens à travers la philosophie, mais dans une approche philosophique assez noire, assez... La philosophie peut me conduire au bord du suicide, en fait, avec Camus, Sartre. Ça ne m'a pas vraiment aidé à retrouver un chemin de lumière. Et j'ai eu la chance d'avoir une de mes sœurs qui a retrouvé la foi grâce à, à son chum qui est devenu son mari, français. Les Français ont beaucoup d'importance. La France a de l'importance dans ma vie. Et mon beau-frère était assis. C'est un chrétien, disons, très libre. Il fumait des joints, puis il me parlait de Marthe Robin, tu sais. Je dis toujours, c'est comme ça que Dieu m'a rejoint.
Les voix de Dieu sont vraiment impénétrables. C'est bon.
Ça m'ouvrait l'esprit, tu comprends. Ouais, c'est ça. Mais même la drogue, à un moment donné, j'avais fait un trip de champignons magiques dans un genre de rave party. Puis j'ai eu comme une vision de Dieu, du crucifix. Je dis, hey Martin, ça suffit, là. Je suis sorti du party, là, je commence à halluciner. Là. Mais n'empêche que ça a été comme un flash dans ma vie. Et c'était comme une lumière, comme un phare qui brille dans la tempête, là, tu sais. Puis je me suis dit, mais il y a quelque chose qui transcende, là, tu sais. Notamment à travers la musique. C'est drôle, la musique et la drogue, c'était ma religion, en fait. C'est ça qui me sortait de la banalité puis de la tristesse de ma vie, en fait. C'est de décoller. Sauf que plus tu décolles haut, puis après, tu t'atterris bas, tu sais. Fait que c'est pas une bonne spiritualité. Mais ça a comme fendu un peu ça a fait une craque dans mon orgueil, puis quelque chose... Il y a comme une lumière qui est passée à ce moment-là.
Parce que dans toute la culture punk, il y a quelque chose dont n'est pas du monde aussi. Il y a une sortie du monde qui est...
Il y a une contestation radicale.
Absolument. Qui n'est pas toute mauvaise pour...
Absolument. Vraiment, on est un peu les Cassandres de ce monde, tu sais, les prophètes de malheur qui disent « ce monde-là ne peut pas continuer comme ça ». Moi, je disais toujours « je refuse d'être dans la carte postale sociale ». Puis tout est fixé et beau, c'est un grand mensonge. Tu
avec
vois.
Le Golden. Le Golden Retriever.
Un beau chien.
C'est ça. Et voilà, puis, mais en même temps, à un moment donné, punk, ça a été juste une courte période de ma vie. Je ne suis pas né avec une craque.
Ah non?
D'ailleurs, quand le Saint-Esprit est arrivé, il est tombé. Mais tu sais, tu ne fais pas carrière punk parce que soit tu te suicides, soit tu te convertis, puis moi, je dis, au fond, je suis sur la même voie que quand j'étais punk, c'est-à-dire, parce que c'est le même chemin qui conduit à l'enfer et au ciel, mais ça dépend dans quelle direction tu le prends. T'sais, c'est le chemin de l'absolu. Moi, j'étais sur le chemin de l'absolu.
La radicalité.
Je voulais l'absolu, ouais. Fait que c'était le néant ou Dieu, quoi.
Il y a eu cette rencontre-là avec le beau-frère là, dont vous parliez. Il y a eu, est-ce qu'il y a eu d'autres points tournants, des moments...
Après, ça va être la grande rencontre. Là, ça va être au moment d'une retraite de guérison intérieure de style Kakuna. Là, mais ce n'était pas à Kakuna, c'était un endroit qui n'existe plus maintenant. C'est ma sœur qui m'a dit, tiens, si tu faisais une retraite de guérison intérieure. Puis, en fait, moi, il y avait une chose que j'avais comprise de ma foi d'enfant, c'est que Dieu est amour. Puis quand même, le message de Jésus, parce que j'ai une période marxiste, une période punk, existentialiste, mais... Quand même, je sentais toujours que la parole du Christ transcendait tout ça, que c'était l'amour qui était la vraie réponse, mais je n'avais pas d'amour dans mon cœur. Alors, j'ai dit à Dieu, si tu es amour, fais-moi le sentir. Puis là, j'ai pris un tsunami, je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'ai fait cette retraite avec ce raisonnement, dire si j'étais blessé par les manques d'amour que j'ai reçus ou que j'ai fait par mes péchés aussi, et si Dieu est amour, ben il peut guérir par une compensation. Mon raisonnement était simple, c'est avéré bon. Et puis, je suis arrivé donc dans cette retraite. Puis, il y avait une jeune fille qui avait des beaux yeux bleus, qui jouait de la guitare. Et on s'est devenus copains. Et puis, heureusement qu'elle était là parce que c'était vraiment très, très quétaine. C'est comme, je me rappelle, il y avait une Sainte Vierge en plate avec des bougies qui clignotaient. T'sais. Moi, j'arrivais des boîtes de nuit à Montréal. Puis j'ai jamais
du Corée-Diouville à Québec.
Oui, c'est ça. Fait que, c'était un peu... Mais je me suis dit, Jésus est né dans une crèche, donc c'est la pauvreté. J'avais compris ça aussi. Fait que, puis un bonjour, elle me dit, tu sais, elle dit, je prie beaucoup pour telle personne dans la retraite. Et puis, je me dis intérieurement, j'espère qu'elle prie pour moi. T'sais. Puis, elle me regarde droit dans les yeux, puis elle dit, toi aussi, je te porte. Et curieusement, c'est la torpille qui m'a touché et coulé, quoi. Parce, je sais pas, c'est dans son regard. Puis, des années après, j'ai réfléchi, parce que c'est une parole maternelle, en fait. Toi aussi, je te porte. Puis moi, ma grande blessure, c'est que ma mère m'a rejeté dès le sein maternel. C'est-à-dire qu'elle me l'a dit, elle n'a pas voulu de moi. Elle est même allée voir le médecin qui a dit pour avorter. Puis le médecin lui a dit, moi, je ne fais pas d'avortement. Et puis elle, ça l'a calmé. Ça l'a, comme je dis toujours, ce médecin-là, il ne savait pas qu'elle avait sauvé un prêtre. Mais c'est, ma grande blessure, elle est là. Puis là, cette jeune fille qui avait ses beaux yeux bleus, en fait, ça a été comme l'icône de la Vierge, je pense, de Marie, tu vois, qui disait, mais moi, je te porte. Je t'aime, je t'accueille et je te donne une nouvelle naissance, au fond. Et le Saint-Esprit est passé à travers ça. Puis là, j'ai senti l'effusion de l'Esprit, puis j'ai senti le début de la grande déchirure, le zipper commencer à monter, là, tu sais, que le Seigneur allait faire une œuvre de retissage de mon cœur.
De guérison, oui. Et de là à devenir prêtre, il y a quand même un pas important.
Oui, c'est ça.
Puis, qu'est-ce qui fait qu'on décide de consacrer sa vie au service de Dieu?
Toujours ce chemin d'absolu, tu sais, cette recherche un peu folle, parce que quand je me regarde, je ne suis pas du tout fait pour l'absolu. Je me demande encore comment je suis là, mais bon. c'est le fait que j'ai, tu sais, comme dit Paul, le Christ m'a aimé, s'est livré pour moi. Et c'était comme une réponse, répondre à l'amour par l'amour du don de soi.
Ouais.
Un autre raisonnement fou que j'ai fait, que apparemment c'était le bon aussi. Là. Et voilà, fait que c'est comme ça. Puis surtout, j'ai fait une école d'évangélisation juste après ma conversion.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Alors, c'était un programme de 9 mois que la communauté de l'Emmanuel proposait à des jeunes un peu partout. On devait être 10 ou 12 nationalités, je crois, sur 25 jeunes. Et il y avait de la formation, de la vie communautaire, puis de la mission. Et c'est dans la mission que j'ai fait l'expérience, comme dit Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, mais que annoncer l'Évangile pouvait vraiment remplir mon cœur, que c'était une joie extraordinaire d'annoncer le Seigneur. Puis je me suis dit, un prêtre, c'est un missionnaire, full équipe. Quoi. Et puis j'étais dans la communauté de l'Emmanuel, je commençais un cheminement. Puis il y avait plein de jeunes hommes enthousiastes, puis la possibilité de vivre le sacerdoce dans une famille spirituelle, parce que c'était un peu ma blessure aussi, la famille. Donc, je n'aurais pas pu entrer dans un cheminement de prêtre classique, là, tu sais. Fait qu'il y avait tout ça qui me portait. Et puis, je rends grâce à Dieu, parce que finalement, j'ai fait ma formation en Europe, j'ai été ordonné en Europe, j'ai fait du ministère pendant 11 ans. Et la communauté a décidé de se fonder à Québec. Donc, j'ai pu réunir mes origines humaines et ma famille spirituelle. Et puis, on est arrivé à Saint-Thomas, puis commencé une belle aventure.
Avant l'émission, vous me disiez que vous avez à la maison une Telecaster. C'est une mythique guitare de rock, de rocker. Donc, le rocker est resté rocker.
Oui, puis justement, à Saint-Thomas, on a eu la Providence à amener pendant la... Pendant la COVID, on s'est retrouvés, en fait, des prêtres et des laïcs à vivre dans le presbytère, puis avec beaucoup de talent musical. Fait que j'ai dit, on va se faire une bonne louange. Puis là, on avait du djembé, du shaker, de la guitare, des bons chanteurs. J'ai dit, on va mettre ça en ligne. Puis là, ça a évolué. Puis finalement, on s'est monté un stage. Puis il y a un gars, André Nadeau, qui est arrivé avec son clavier. Puis là, on a commencé à faire de la belle musique chrétienne. Donc, je suis vraiment fier aujourd'hui. Puis... Puis des fois, je m'écoute, je me dis « Wow, t'es un rocker, Martin, tu restes un rocker! »
Alors, vous avez un groupe qui s'appelle Bande de prêtres?
Oui, Bande de prêtres, oui. C'est un groupe un peu intermittent, disons, du spectacle. C'est surtout Lumière de la joie, qui est un podcast de louanges qu'on fait 4 jours par semaine pendant l'année scolaire, qui est vraiment un beau ministère. C'est vraiment un ministère musical. Comme je dis, c'est Jésus qui est la lumière des ondes. T'sais, qui envoie, parce que c'est pas comme la musique enregistrée que tu as en streaming, là, où tu écoutes de la musique de louange. Là, c'est de la louange live. Fait que c'est une prière live.
C'est assez original comme concept.
Ouais, c'est un nouveau concept. Alors, musicalement, c'est pas pire, ça n'a pas la qualité studio, mais ça groove bien.
Mais ça a l'énergie du direct.
C'est ça. Surtout la prière. Puis. Fait qu'on a plein d'échos de gens qui sont
rejoints. Moi, je l'écoute, par Martin, ce balado-là. Je le mets dans ma voiture pour venir travailler le matin. Puis ça me met dans la joie, ça me met de bonne humeur. Puis c'est comme il dit, un jour, Martin, il m'a dit, ça, c'est le balado qu'il ne faut surtout pas écouter. C'est un balado à prier, dans le fond. Donc, c'est pas de la musique que tu écoutes.
Ça comme ça, là?
Oui, tu écoutes ça, mais eux, entre les chants, ils prient, ils louent, ils rendent grâce.
On exerce les charismes.
Donc, dans l'auto, j'essaie de ne pas trop lever les mains. c'est vraiment, non pas à écouter, mais à prier. Prier avec d'autres personnes qui louent.
C'est super.
Puis ça brise la solitude, parce que louer seul, je trouve ça plus difficile.
Simon, tu avais aussi une question pour le père Martin.
Oui, bien, je me demandais, je sais que tu as traversé un cancer dans les dernières années. Est-ce que ça l'a transformé quelque chose dans ta manière de vivre ta foi ou ton sacerdoce?
Bien, Dieu, il y a toujours des surprises. Hein. C'est sûr que la souffrance, c'est une purification. Donc, il y a des choses qui... depuis mon cancer, j'ai l'impression, je dis toujours, j'écris avec la pointe de mon crayon. C'est-à-dire qu'il me semble que je fais là où je suis le meilleur, puis je peux porter plus de fruits parce que j'ai moins d'énergie de toute façon. Mm-hmm. Donc, je ne peux pas faire tout ce qu'un prêtre fait d'habitude. Je fais des choses, tout ce que... Mais il s'est avéré que justement à travers le ministère musical, ça a été une chose où j'ai pu former des gens. C'est parce que tout un écosystème qui s'est développé musical, de ministère musical qui s'est développé, des retraites des artistes, plein de choses. Et donc, ça, c'est une première chose. Donc, j'écris plus avec la pointe de mon crayon. Et puis, il est arrivé une autre révélation. Je ne m'attendais pas. Un jour, le jour de Noël, je célébrais la messe. J'avais préparé une belle homélie théologique. Tout ça. Puis, il y avait plein d'enfants. Je me suis dit, mais tu ne vas pas faire cette homélie-là, ça ne marche pas. J'ai laissé mon homélie, puis j'ai parlé aux enfants. Puis là, ça a été un choc pour moi. Je me suis dit, mais en fait, on ne prêche pas vraiment aux enfants. T'sais, à la messe, on les envoie faire du coloriage dans un coin, tout ça. Il dit, mais il faut... Jésus dit, laissez les enfants venir à moi. Puis il met un enfant au milieu, il dit, si vous ne devenez pas comme eux dans le royaume... Et j'avais 60 ans et j'ai eu ce choc de retourner à l'enfance. Puis là, depuis 2 ans, on a fait des messes. Alors, c'était un peu compliqué. C'était soit sur Internet, soit dans le sous-sol. Mais ça fait 2 ans que je prêche aux enfants. Et c'est une grâce extraordinaire parce que ça m'a obligé à retourner dans... Puis surtout, à faire cette parole de Jésus, laisser les enfants venir à moi. Mm. Puis on s'aperçoit que notre liturgie, c'est une liturgie vraiment d'adulte. C'est pas fait pour les enfants. Il faut repenser. Moi, je rêve que le pape fasse un congrès de l'enfance. Il y a plein d'enfants! On dit, c'est à vous la première place!
Mm. Mais c'est vrai qu'on sous-estime, je trouve, tout l'apport spirituel des enfants.
Ah, ouais.
C'est comme si c'était... on fait comme les apôtres, on les pousse. Ils dérangent.
Ou comme simplement de futurs adultes.
C'est ça. Quelque chose de cute. Ils sont cute. Ils sont cute. La belle famille à la messe. Non, mais c'est des personnes. C'est des personnes, les enfants. Ils ont une vie spirituelle intense. Puis on sous-estime. Je trouve ça super que vous
fassiez. Moi, je fréquente la paroisse où prêche le père Martin. Puis je lui dis tout le temps, c'est les seules homélies que j'arrive à écouter du début à la fin, à retenir quelque chose. C'est plein d'images. Vraiment, moi, ça me rejoint. C'est pas juste pour les enfants.
C'est dialoguer avec les enfants. Les enfants, ils te sortent des affaires tellement drôles, des fois. Puis tellement justes. Une fois, j'avais prêché sur l'histoire de Joseph avec les vaches. Il dit... Il y a 5 vaches maigres, 5 vaches grasses, tu sais. Puis il y a une petite fille qui est revenue après la messe, elle dit « Non, mon père, c'est 7 vaches grasses, c'est 7 vaches. » Ah, pardon.
Il en manque pas une. Père Martin Lagacé, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous partager votre...
Ça fait du bien de se rafraîchir, de raconter son histoire. Les merveilles du Seigneur. Merci à toi.
Rendons gloire à Dieu pour tout ça. Je rappelle que vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Québec. Ex-punk et désormais guitariste dans un band de louanges. Et vous tenez le podcast Lumière de la joie, qu'on peut retrouver sur les plateformes de streaming. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
Brigitte Bédard.
Enfant.
Oui, c'est moi. Quand on regarde les chanteuses pop d'aujourd'hui, là, je pense évidemment à Taylor Swift, à Lady Gaga, par exemple, on voit des femmes fortes, audacieuses, tu sais, qui ont de la drive, là, du courage.
Lady Gaga qui a une certaine foi, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Hein, elle a déjà parlé de l'Eucharistie dans une entrevue. Alors, quand on regarde ces femmes-là, on se dit « Wow! » Ça, c'est des femmes libres. Mais c'est pas les pionnières, c'est pas les premières à avoir eu cette attitude-là, c'est pas les premières musiciennes non plus à être aussi hot.
Ah oui, mais c'est ça. Sainte-Cécile, qui pourrait être leur patronne, n'est-ce pas? Mais qui est leur patronne?
Sans même qu'elle le sache.
Oui, c'est ça, mais peut-être le savent-elles, je ne le sais pas. Je vais appeler Taylor demain matin. Je vais demander. Mais c'est ça, Sainte-Cécile de Rome, ouais. Parce qu'il y a eu plusieurs Sainte-Cécile, mais qui a été décapitée, là, mais d'une façon tout croche par un bourreau complètement déstabilisé. Il était
même pas bon comme bourreau.
Je vais en reparler de son martyr, mais juste pour dire qu'elle a été tuée en 230, c'est une martyre de l'Église catholique vénérée par les orthodoxes aussi.
Ah oui.
On peut aller vénérer ses restes à l'église Sainte-Cécile de Transtévérie à Rome,
okay.
Où on a retrouvé, en 1599, il y avait des fouilles, tout ça, on a retrouvé les restes de son corps, en fait, son corps qui était intact.
Hey.
Intact,
elle a quand même été décapité.
Non, en fait, sa tête est restée là.
Ah ouais?
Parce que, justement, les trois, elle a été condamnée à la décapitation parce que c'était une noble romaine. Hein? C'était une citoyenne romaine. Donc, elle avait le privilège d'être décapitée. Mais elle a été torturée un peu avant, mm-hmm. parce que le préfet de Rome de cette époque-là a essayé de la dissuader, de lui faire peur. Mais c'est là qu'on voit la femme de caractère qu'elle était. Écoute, moi, quand je lis écoute, je vais vous lire un extrait là, de son procès, là, où, 3-4 lignes, juste pour vous montrer cette jeune fille. C'est une jeune fille, là, elle était dans la fleur de l'âge, là, une jolie jeune fille en fleurs, tu sais. Et elle répond au préfet, il lui demande « Quelle est ta condition? » Il répond « Je suis libre, patricienne et clarissime. » En Flandre, je suis claire, tu sais, moi, là, j'ai pas deux faces. Mm-hmm. Je suis celle que tu vois, tu sais. Mm-hmm. Puis là, il lui dit, c'est pas ça que je te demande, espèce d'insolente. Je te demande quelle est ta religion. Et elle lui répond, ta question était ambiguë et manquait de clarté. Elle répond ça. Mais elle sait qu'elle va mourir.
Ben ouais.
Parce qu'elle veut pas renier sa foi au Christ. Puis elle le sait qu'à la fin, le préfet va lui demander de sacrifier aux idoles. Et elle va refuser. Puis son mari, son beau-frère, ils viennent de se faire tuer. Donc, il lui demande « D'où te vient une telle assurance? » Et elle répond « D'une conscience pure et d'une foi qui ne se cache pas.
Ah, » ouais.
Tu sais, écoute, moi, là, je veux être comme ça. Il lui demande aussi « Ne sais-tu pas ce qu'il en coûte de me répondre ainsi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de vie ou de mort? »
Oh, ça ressemble à Pilate sur Jésus,
ça. Exact! Et elle répond « Non, tu te trompes. Tu as juste le pouvoir de mort. Tu n'as pas le pouvoir de me rendre la vie une fois que tu m'auras tué.
Wow. »
Et là, elle se met à lui parler de Jésus comparativement à ses idoles, qui sont des idoles de pierre, puis que personne ne peut les défendre, puis qu'elle croit en un Dieu, un seul Dieu, en trois personnes, puis elle part sur une... Écoute, ça, c'est une femme!
Mais pourquoi c'est la patronne des musiciens? J'ai pas compris.
Parce que elle chantait toujours. Quand elle était très jeune, elle chantait des hymnes et elle louait Dieu en tout temps et en toutes choses. Comme Saint Paul nous le demande. Et comme toute la Bible dit, hein, il doit y avoir à peu près une trentaine de citations juste de l'Ancien Testament qui parlent de louer Dieu en tout temps
psaumes,
et en toutes choses. Ouais. Les psaumes, dans Isaïe, dans plein de livres. Puis elle chantait en tout temps des hymnes, elle en composait, elle a confié sa vie, elle a fait vœu de chasteté à Dieu. Elle lui a confié sa vie et son corps.
Mais tu parlais de son mari tantôt.
Bien, justement, c'est que, comme elle était patricienne, elle n'avait pas le choix, elle ne pouvait pas choisir de ne pas se marier, ça ne se faisait pas, et elle ne voulait pas déplaire à ses parents, donc elle a accepté de se marier avec Valérien, mais elle a fait promettre à Valérien de conserver sa chasteté en lui disant « Si tu me crois, si tu crois à mon Dieu, parce que lui, c'était un païen, si tu crois à mon Dieu, il va se manifester à toi et tu vas voir que c'est vrai et tu auras une couronne de gloire. » Il a dit « D'accord, si je le vois, je te crois, je vais le respecter. » Le soir même, le soir même, il fait un rêve hallucinant. Il voit un ange et il accepte de conserver sa virginité.
Et lui aussi, c'est un saint, dans le fond.
Oui, bien, je ne sais pas, Saint Valérien. Ben, en tout cas, oui. Il a été décapité.
Lui, sa manière.
Lui aussi, il a été...
Il a eu la couronne du martyr.
Oui, oui, il a eu la couronne du martyr. D'ailleurs, tu sais ce qu'il a vu en songe, un ange qui lui a présenté deux couronnes, la couronne du martyr. Et il y a le beau-frère qui va se convertir aussi, le frère de Valérien. Et même le Romain, le soldat romain qui a tué Valérien et son frère, va se convertir face à leur assurance et leur éloquence. Tu sais. Donc, quand Claire subit le martyre...
Cécile?
Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Tu as dit Claire, mais elle était claire, elle l'a dit dans son procès.
Quand elle subit le martyre, elle le subit en chantant. Hmm. Et quand elle va le jour de ses noces, elle le fait en chantant. Elle chante tout le temps. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle va même chanter avec son corps parce qu'on lui a donné 3 coups de hache. Pauvre bourreau. Le premier coup n'a pas marché. Le deuxième n'a pas marché non plus. Le troisième, qui était un peu plus gros, ça n'a pas marché. Et la loi romaine interdisait un quatrième coup. Donc, ils l'ont laissé comme ça souffrir le martyre pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, elle est morte au bout de son sang. Mm. Et la statue qui la représente, elle représente le corps qu'on a retrouvé d'elle en 1599. C'est Stefano Maderno, qui est le sculpteur, qui est la statue la plus célèbre de Sainte-Cécile, où elle est couchée sur le côté, puis qu'on ne voit pas son visage. Son visage est comme tourné comme ça. Son visage enveloppé, sa tête enveloppée d'un voile, d'un turban de noble, en fait. Et on voit les 3 marques à son cou. Et sa main droite est comme ça en 3, ouverte en 3 pour les 3 personnes de la Trinité. Mmh. Et sa main gauche en l'index comme ça, un seul Dieu. Alors, son corps a été retrouvé comme ça.
Elle a prêché jusqu'à la fin.
Elle a prêché avec jusqu'à la fin. Mm. Vous dites, toutes les femmes veulent être comme ça. Tu veux être une femme droite, une femme qui se tient debout, une féministe, une musicienne, une whatever.
Une baveuse avec le pouvoir établi
exactement,
aussi. Hein,
c'est ça. Exactement.
C'était une punk, c'est sûr.
Elle était vraiment pas du monde.
Ça fait penser aussi, la manière qu'elle est morte, aux Carmélites de Compiègne, qui sont mortes en chantant, pendant la Révolution française, de Salve Regina.
C'est vrai.
Exactement, exactement. Fait que je me dis, mais quel modèle, quelle patronne extraordinaire pour les musiciennes d'aujourd'hui, les chanteuses, les poètes aussi, c'est la musicienne des poètes. Donc, je pense que, oui, c'est une femme à adopter chez soi.
Sainte Cécile de Rome, priez pour nous. Merci beaucoup, Brigitte. Simon Lessard, il a été question de musique et de louange beaucoup depuis le début de l'émission. La louange, ça fait partie des choses qu'on vit, qu'on expérimente, qu'on pense connaître, mais si tu me demandais de définir c'est quoi la louange, pas sûr que je serais capable.
C'est facile, hein?
Alors, une chance que tu es un peu philosophe, là, tu vas sûrement nous aider.
Mais c'est quand même important, Antoine, parce que le pape François, écoute, il dit que la louange, c'est la meilleure façon d'entrer dans le mystère de Dieu. Donc, si on est chrétien, normalement, on voudrait entrer un peu dans le mystère de Dieu. Ouais, et voilà la meilleure façon. Donc, c'est pas une option. La louange, ça fait partie de la vie de foi, de la vie chrétienne. Ça faisait aussi partie de la vie des Juifs, bien avant Jésus.
On en parlait tantôt, on retrouve ce mot-là dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises.
À plusieurs reprises, et il y a 7 mots, c'est un chiffre parfait, ça tombe bien, pour désigner la louange dans l'Ancien Testament.
Okay.
Donc, et chaque mot révèle une dimension différente de la louange. Par exemple, le premier, c'est « alal », duquel on a « alléluia ». Et puis, ce mot-là veut dire « célébrer avec émotion, extravagance et délire ». Moi, quand je pense à ça, je pense tout de suite à Brigitte Bédard.
Ne pas confondre avec la viande halal.
Non, ben je ne sais pas. Là, peut-être qu'il y a un lien entre les deux.
Avec Brigitte est très halal.
Alléluia veut dire « louer le Seigneur ».
Oui, vous savez probablement. Moi, quand je loue dans mon groupe de prière et de louange, là, moi, ça a été long avant que ça vienne, mais j'hésite plus maintenant à lever les mains, puis chanter, danser. Ben là, danser. C'est quand même, je me garde une petite réserve. Mais dans ma maison, là, je me lâche.
Bon, le deuxième mot, Antoine, c'est Teïla. Ben là, peut-être que ma prononciation hébraïque n'est pas parfaite, là. Mais c'est chanter, mais avec la nuance de chanter avec le cœur. Donc, c'est l'idée que la louange, c'est pas juste émettre des sons ou chanter, mais c'est avec ce qu'il y a de plus profond en nous, avec amour. Donc, c'est vraiment de tourner son cœur vers Dieu.
Ça, c'est mon fils de 3 ans quand il ramasse une guitare, il chante avec ses tripes.
Exactement. Ensuite, on a le mot zamar, qui est l'action de chanter, mais cette fois-ci accompagnée d'instruments de musique. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, la lyre, il y en a plusieurs, le tambourin. Et c'est intéressant parce que c'est l'idée que non seulement les êtres humains louent Dieu, mais même la technique, même les artefacts, même leur propre, les créations de l'homme participent à la louange lorsqu'on accompagne d'instruments. Ensuite, on a le mot « shabak », qui est un hommage public fait de vive voix d'un serviteur à son bon maître. Donc ici, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que c'est public, la louange. Évidemment, on peut louer toute seule dans sa chambre, mais louer et louer fort, avec exubérance, généralement, ça fait un peu de bruit. Et puis, il y a toujours une dimension publique à la louange. C'est pour ça que ça se retrouve souvent dans la liturgie aussi, qui est une prière publique pour rendre hommage à Dieu.
Pas très libéral, ça. C'est, on a l'idée dans nos sociétés de vivre notre foi
la
en privé.
Privé là, ouais, ouais, ben, la louange, ça fait éclater cette conception. Mm-hmm. Parce qu'en plus, souvent, on va louer avec d'autres.
Ouais.
Et donc, c'est encore public aussi dans sa dimension communautaire.
Ouais.
On a enfin le mot « barak », qui est une attitude de soumission et de confiance, même d'adoration à genoux. Et là, on a l'idée que la louange, c'est la voix, mais c'est tout le corps qui loue. Hein, Brigitte parlait d'élever les mains, se mettre à genoux. Donc, c'est important, c'est tout notre être, notre raison, notre volonté, nos émotions, notre corps, notre parole qui est tournée vers Dieu dans la louange.
Et Sainte-Cécile, au moment de sa mort, qui nous donne une catéchèse
avec ses mains, avec ses doigts.
Ouais, c'est...
Exactement. Mm. Et on a d'autres mots comme « yada », qui, lui, c'est le geste d'élever les mains avec joie et soumission. Et donc, pour la joie, on peut imaginer un footballeur hein, qui fait un but et puis qui lève les mains comme ça. Yes, victoire! Et puis pour la soumission, on peut penser à un hold-up, haut les mains.
OK.
Donc, c'est un peu l'idée.
Je ne vois pas le lien avec la louange.
Bien, la louange, je dirais, ben, c'est la joie et c'est la victoire du Christ sur la mort.
Mais en même temps, c'est de recevoir tout de Dieu.
C'est d'être abandonné.
Exactement.
Donc, l'abandon total à Dieu.
D'être soumis aussi à ce que l'Esprit-Saint va me souffler là, tu sais, parce que... C'est jamais hein, qu'est-ce qui va arriver.
Et après tout, Antoine...
Peut-être qu'il ne va rien arriver. Mm-hmm.
Le Nouveau Testament nous dit que le Seigneur va venir comme un voleur.
Ah,
donc, le hold-up, quand même, il y a un lien.
Très fort.
Dernier mot, c'est le toda. Donc, c'est encore élever les mains, mais cette fois-ci avec adoration et remerciement, avec la connotation de confession. Et là, l'image, c'est un peu si vous êtes dans un procès et qu'on vous demande de lever la main pour jurer de dire que la vérité. Donc, c'est un peu ce geste d'élever les mains comme pour jurer devant Dieu, confesser notre foi devant Dieu.
D'ailleurs, la posture orante traditionnelle, on le voit chez le prêtre pendant la messe, souvent il lève les mains comme ça pour prier.
Exactement. Donc, normalement, c'est les mains plus vers l'avant, mais bon, ça peut être vers le ciel, il n'y a rien de mal aussi à ça. Là,
on a vu différents sens là, de la louange, différentes racines étymologiques du côté hébraïque, mais mettons chez moi là, ou dans mon cœur, d'où ça peut naître la louange? Parce que qu'est-ce qui me met dans un état de louange? Qu'est-ce qui peut être le moteur de ma louange? Parce que, mettons que je la vis pas, la louange. Aide-moi, s'il te plaît.
D'abord, l'appétit vient en mangeant.
Ah, okay.
Donc, loue et la louange va venir. Mais je dirais, la louange naît de l'étonnement, de l'émerveillement. Hein? Pense, tu as vu un bon film, tu as écouté une pièce de musique, un artiste que tu admires. Waouh, c'est beau. C'est déjà une forme de louange, waouh, là. Même chose, tu écoutes la vie de Sainte-Cécile, ça t'impressionne. Waouh, c'est bon, sa vie. Hein? C'est bien. Ça peut être, tu écoutes un enseignement qui est clair, qui est droit, qui est vrai. Waouh, c'est vrai. Donc, c'est vraiment cette explosion, je dirais, qui jaillit quand on est devant un bien immense et qu'on ne peut pas retenir en soi. C'est un éclatement. Il y en a qui vont parler d'une épiphanie de l'émerveillement. Une épiphanie, ça veut dire une manifestation, ça doit sortir. Et donc, je dirais, la louange, elle jaillit quand on fixe notre regard sur Dieu qui est le bien infini, le bien absolu. C'est vraiment une prière, je dirais, qui s'ancre dans une connaissance, d'abord, cette connaissance de la bonté de Dieu. C'est pas une prière utile, en fait, la louange.
Oui, mais c'est ça. Dieu, y a-tu vraiment besoin de ça? Est-ce que Dieu, dans caricaturons un peu, il est dans son nuage, puis est-ce qu'il est là à attendre nos louanges? Il n'y a pas besoin de ça, il est déjà plein.
Dieu a besoin de rien, mais nous, on en a besoin.
Ah.
Et il se réjouit quand même dans notre louange.
C'est sûr que Dieu n'a pas besoin, moi. Je veux dire, c'est quoi le premier commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Il nous dit qu'il veut être aimé, il a besoin d'être aimé. Jésus, il a eu besoin qu'on l'aime et qu'on le reconnaisse comme notre Messie, notre Sauveur. Non. Moi, c'est parce que j'ai fait une grosse prise de conscience là-dessus l'année passée, là, que dans le fond, je ne rendais pas à Dieu tout l'amour qu'il me donnait. Puis je me disais, mais Dieu, il a besoin de mon amour, il a besoin d'entendre que je l'aime. Peut-être que j'exagère.
Non, mais je pense que c'est
puisque
bien.
Puisque c'est une relation.
C'est bien psychologiquement de le penser comme ça.
Mais évidemment, c'est une alliance.
Dieu est parfait.
C'est pas un sens unique, là.
Dieu n'est pas dans le manque. Si Brigitte Bédard se détourne de lui au sens philosophique de la perfection divine.
Il va souffrir.
Mais sa gloire extrinsèque, évidemment, grandit à chaque fois que tu élèves les mains que tu loues, Brigitte.
Mais moi, je pense qu'il souffre si je m'éloigne de lui. Si je le rejette, si je le suis pas, si je l'aime pas, si je prie pas, si je prends pas du temps pour lui, il souffre de mon manque d'amour, de cette relation que je coupe dans le fond. Tu sais, Saint Ignace, il dit qu'on est né pour louer Dieu. Puis dans la Bible, c'est écrit souvent, on est né pour ça. Fait que si on le fait pas, ben c'est quoi le sens de notre vie?
Ouais, tu as bien raison, Brigitte, on est faite pour louer Dieu. Et c'est vraiment, je dirais, une prière dans la gratuité, dans le fond. Donc, c'est le premier sens de prière, c'est demander. Hein? Fait que souvent, quand on pense prier, ben, je demande ci à Dieu, je demande ça, il est tout puissant, il est aimant. Donc, comme un petit enfant qui demanderait des choses à ses parents.
Mais pas la louange.
Mais la louange, là, moi, je trouve que ça ressemble plus à un parent qui regarde son petit enfant. Un petit bébé, là, ça fait pas grand-chose, mais ça existe et c'est beau. Et il y a une sorte d'émerveillement du parent à contempler, à regarder son enfant. Il y a un amour, il peut même y avoir une forme de louange qui jaillit, une parole qui jaillit en regardant l'enfant. Et c'est, je pense que c'est ce regard aimant, gratuit sur le bien duquel jaillit la louange. Mais après, évidemment, louange et action de grâce, louange et reconnaissance, louange et demande vont souvent ensemble. Parce qu'une fois que j'ai porter mon regard vers Dieu qui est le bien absolu, le bienfaiteur suprême, ben, je ne peux pas faire autrement que de voir tout ce qu'il fait. Non, pas juste ce qu'il est, mais aussi tout ce qu'il fait de bien. Et puis ben, là, je tombe, souvent, je vais mélanger de l'action de grâce à la prière de louange.
On parlait de Sainte-Cécile un peu plus tôt dans l'émission. Simon, c'est pas la seule sainte qui a expérimenté la joie de la louange. C'est peut-être même le secret le mieux gardé.
Ouais, ben, je pense que tous les saints, d'après moi, ont loué d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs manières de louer. Là, Père Martin vient de la communauté d'Emmanuel, qui nous parlait plutôt dans l'émission, qui ont des chants en français actualisés pour aujourd'hui. Mais ouais. Le grégorien, c'est des chants de louange aussi. Ouais. Les psaumes sur les mélodies hébraïques, c'était aussi une manière de... Donc, la louange n'est pas associée à un style particulier de musique, ça c'est important de le rappeler, c'est une attitude tournée vers Dieu, une attitude d'admiration vers Dieu. Et c'est vraiment le secret de la joie des saints. Un jour, j'ai lu un théologien qui se demandait, dans l'Antiquité, les chrétiens étaient reconnus pour être les gens les plus joyeux. Toutes les gens des autres religions regardaient les chrétiens et disaient, mais comment ça se fait qu'eux sont plus joyeux que les autres? Et ce théologien dit, mais aujourd'hui, depuis quelques siècles, je ne suis pas sûr que les gens regardent les chrétiens comme les gens les plus manifestement les plus joyeux que les autres.
C'était d'ailleurs le point de Nietzsche.
Exactement. Hein? Ils n'ont pas l'air d'avoir des faces de ressuscité.
Nietzsche avait dit, je serai chrétien le jour où ils seront comme des ressuscités quelque chose comme ça.
Mais ce théologien-là, en creusant l'histoire de l'Église, a découvert une chose. D'abord, l'importance de la louange dans les premières communautés chrétiennes. Il suffit de lire les lettres de Paul pour voir qu'à tout bout de champ, il y a des hymnes, des cantiques. Même chose dans l'Apocalypse. Dans les premiers livres liturgiques qu'on a retrouvés, ça déborde de chants de louange. Mais aussi le fait qu'il mettait une emphase particulière sur les vertus théologales, foi, espérance et charité, plutôt que sur les vertus morales dans l'Antiquité. Donc, la foi, l'espérance et la charité, c'est quoi? C'est « je crois Dieu, j'espère en Dieu, j'aime Dieu ». Donc, ça tourne mon regard vers Dieu, Dieu qui est parfait.
Au lieu d'être tourné vers soi.
Vers soi, les vertus morales qui ne sont pas mauvaises, hein? Le courage, la tempérance, la justice. Mais si je regarde ça, je vais regarder moi et nécessairement, je regarde un pécheur, un être imparfait. Donc, il y a des causes de tristesse. Et quand on lit une lettre de saint Paul, c'est la même chose. La majorité de la lettre, elle nous parle du mystère de Dieu à la fin, une petite section plus morale.
Mais des fois, il varlope un peu.
Oui, elle peut être intense, mais en proportion, c'est pas 50-50. C'est au moins trois quarts, un quart, je dirais. Donc, c'est ça aussi le mouvement de la louange. C'est tournons notre regard vers Dieu et nous demeurerons dans la joie. Et comment faire? Bien, en louant, on s'assure de rester fixé les yeux sur Dieu.
Simon, il y a tout un... Bon, tu disais au début, là, en tout début de chronique, que la louange, c'est une façon d'entrer dans le mystère de Dieu. Ouais. En tout cas, peut-être même la façon privilégiée.
La meilleure selon le pape François.
Ça doit être bon. Il y a quelque chose d'un avant-goût du ciel là-dedans aussi, là, si c'est vraiment une façon d'entrer dans le mystère de Dieu.
Oui, parce que le ciel, c'est rien d'autre qu'être avec Dieu, être en communion avec Dieu. Et quand on y pense... Au ciel, là, il y a bien des activités qu'on fait sur Terre qu'on ne fera plus.
Ah oui?
Ouais. Ben, tout ce qui dépend de notre mortalité, de nos imperfections. Hein? Mais là, je ne veux pas vous décevoir, là, mais manger, boire, dormir, d'autres activités pour engendrer la vie, disons. Tout ce qui dépend du fait qu'on a un corps mortel.
Se laver.
Travailler aussi, demander pardon. Au ciel, on ne fait plus de péché, on n'aura plus besoin de faire ça. Mais bref, quand tu enlèves tout ça de tes activités de la journée, hein, se transporter, il paraît que nos corps glorieux vont se transporter presque instantanément, très rapidement. Bon, c'est un mystère, évidemment, tout ça. Mais qu'est-ce qui nous reste, les choses qui sont bonnes et gratuites en soi, dont la louange? Donc, c'est très important parce que louer, c'est déjà commencer la vie céleste sur terre. Donc, c'est goûter, très imparfaitement, j'en conviens, mais à quelque chose du ciel sur terre. Et saint Augustin, lui, va dire que dans notre vie présente, il faut vraiment louer Dieu parce que l'allégresse de notre vie future va être une louange. Puis il ajoute, personne ne peut être adapté à la vie future s'il ne s'exerce pas dès maintenant. Donc, la louange, c'est s'exercer à la vie éternelle.
Mais moi, j'ai déjà entendu un athée célèbre, je ne me rappelle plus lequel, là, mais il disait justement, moi, on m'a toujours dit que le ciel, là, c'était louer Dieu pour l'éternité. Il dit, moi, être à genoux pour l'éternité, puis louer Dieu, là, je trouve ça plate. Là.
Bien, il va y avoir de la danse aussi. Hein. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu les fresques de Frangelico qui dépeint les élus, les saints, mélangés avec des anges. Bon, évidemment, les anges n'ont pas de corps, mais c'est pour nous faire comprendre. Et puis, ils dansent ensemble, ils louent ensemble. Moi, je l'imaginerais plus comme un banquet de mariage éternel avec plein d'amis, des conversations, de la danse, du chant, des raisons éternelles de se réjouir.
Il faut faire attention à comment est-ce qu'on conceptualise ou comment on visualise un peu c'est quoi la
mort. Évidemment, c'est des images, mais toutes ces images-là sont là pour nous dire qu'on va être 100% comblé et qu'on ne va jamais être tanné.
C'est ça que j'allais dire, c'est que nos besoins, tout va être comblé. Tout va être comblé, je veux dire. Qu'est-ce que tu peux espérer de plus que ça, là?
Et quand on est comblé, et quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on fait?
On chante.
On chante.
On danse, on chante.
Un cœur qui aime chante. Vraiment, là, je pense que c'est un effet naturel de l'amour de chanter.
J'ai quasiment le goût d'y aller tout de suite.
Bon, en attendant d'y aller, on peut quand même expérimenter la louange, entre autres dans les sacrements, dans la messe. C'est peut-être un lieu privilégié pour vivre le ciel sur la terre.
Ouais, quand la messe est bien faite, là, non, mais toute messe est une prière, une forme de prière de louange, c'est vrai, mais c'est important de soigner le chant et la musique à la messe, justement parce que c'est une prière de louange, bien, le chant et la musique vont nous aider à bien vivre cette prière de louange. Si le prêtre chante la prière eucharistique, on comprend encore mieux en quel sens c'est une prière de louange. Il y a même la lettre aux Hébreux qui nous dit que la messe, c'est un sacrifice de louange. Donc, par exemple, dans la lettre aux Hébreux, il est dit « En toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. » Et la tradition a toujours compris que ça s'appliquait au saint sacrifice, ce sacrifice de louange de la messe. Et pourquoi? Ben, parce que dans la messe, toutes les formes de prière s'y retrouvent, premièrement. Ah non, puis j'allais simplement ajouter aussi parce que dans la messe, l'Église chante la gloire de Dieu à la fois en action de grâce pour son œuvre de création et de recréation. Donc, c'est toute la bonté de Dieu qui est constamment remise sous nos yeux, tout le salut qui nous est présenté et qui ne peut qu'éclater en louange.
Moi, j'allais dire que c'est un sacrifice en soi de louer quand on souffre. De choisir de remercier Dieu, de me tourner vers lui dans ma souffrance, dans peu importe que ce soit physique ou psychologique ou affectif, ça demande là une totale confiance que Dieu est là, puis de me tourner vers lui au lieu de rester pogné tout seul dans ma souffrance, puis de commencer à louer. Moi, je suis incapable.
Grâce, là.
Mais moi, je ne suis pas capable.
Tu avais fait un reportage une fois, il y a plusieurs années, Brigitte, je m'en souviens encore. T'avais, je pense, c'est toi, tu avais rencontré un couple qui avait perdu deux enfants par suicide.
Ah, je m'en rappelle.
Et qu'au funérailles du second, il y avait eu le chant « Comment ne pas te louer ».
Comment ne pas te louer.
C'est quand même, c'est quand même troublant quand on y pense. Ah, c'est ça.
J'en parle, j'ai la chair de poule encore.
Ce chant-là a fait un tabac sur les réseaux sociaux dans la dernière année. Hein.
Mais oui, sur TikTok, ça a été vu des milliards de fois.
Tout le monde.
Comme quoi, le cœur de l'homme est fait pour louer Dieu, naturellement. TikTok le prouve.
Mais moi, j'ai besoin que mon mari m'entraîne dans la louange quand je souffle. C'est juste pour conclure sur mon idée.
Ah ouais, c'est bon.
Donc, on a besoin de nos frères et sœurs chrétiens, de nous aider à nous entraîner dans la louange malgré ce qu'on peut vivre, parce que c'est là qu'on est libéré dans le fond.
Exact. Il ne faut pas attendre d'être dans la joie pour louer. « Ah, j'ai pas le goût de louer, je le sens pas. » Exactement, c'est l'inverse. Loue et tu seras dans la joie. Loue et la joie va venir. Donc, si tu dis « j'ai pas le goût », c'est le meilleur signe que tu devrais louer.
Mais ça demande une... Il faut que je me fasse violence, tu comprends? Là? C'est dans ce sens-là que je vois le sacrifice. Comme... j'ai pas le goût de louer, mais tout m'horripile dans la louange quand je souffre. Je n'en ai que pour ma souffrance.
Ah, moi aussi, quand tu souffres ou tu vis quelque chose de tragique, puis là, quelqu'un vient te voir, ouais, tu pourrais louer Dieu.
Ah, tu as juste envie de le fesser. C'est ça. Soyons un peu, quand même, un peu. J'allais dire délicat,
poli.
Quand quelqu'un souffre, c'est pas le temps d'aller dire « tu t'avais loué, là ». Non, non, c'est pas le temps, là. C'est pas le temps
Par
de dire
contre,
ça.
Par contre, il y a des chants de lamentation, des chants de repentir. Il y a toutes sortes de chants de louange, pas que les chants de fête, de victoire et de joie. Donc, il faut peut-être redécouvrir aussi, par exemple, à la communion, bien, souvent on fait des chants plus doux, d'intimité. Donc, louange, je ne veux pas nécessairement dire seulement toujours joie et fête et tout va bien.
Le psautier, c'est notre évêque de Québec ici, qui est cardinal Lacroix, qui disait le psautier contient tous les états psychologiques de l'homme et nous aide à les transcender, tourner ces états-là vers Dieu.
Oui, et les psaumes et la louange, ce n'est que des actes de foi, d'espérance et de charité qui nous tournent vers Dieu. Donc,
même un psaume qui dit « Je refuse d'être consolé. Je refuse d'être consolé. »
Et ça, c'est la voix du pécheur dans le psaume.
Oui, mais c'est ça.
Mais ça n'en reste pas là. C'est ça,
mais ça reconnaît qu'on peut vivre cette émotion en nous.
Dieu, il comprend ça. C'est lui qui nous a créés, quoi.
Simon Essard, merci beaucoup pour tes éclairages sur la louange.
Ça fait plaisir. On ira louer ensemble après l'émission.
C'est bon.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com.
C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, Simon, tu as une suggestion culturelle pour nous.
Oui, ben en fait, c'est un livre pour approfondir le sens de la louange dans la vie chrétienne. Ça s'intitule « Je loue, donc je vis ». Par le père Alain Dumont, qui est aussi de la communauté de l'Emmanuel, comme le père Martin, là, qui était avec nous à l'émission aujourd'hui.
Je loue, donc je vis. C'est mon propriétaire, quand j'étais en appartement, il disait ça.
C'est un mot à plusieurs sens, Antoine.
Tu parles de la louange.
Exactement, exactement. Ça a été publié donc en 2015. Et dans le fond, c'est plein de témoignages revus à la lumière de la Bible et des enseignements des saints pour nous aider à ce que la louange devienne, je dirais, un réflexe spirituel, louer en toutes circonstances et, comme Brigitte en parlait tout à l'heure, louer surtout dans la détresse, louer dans les épreuves. Donc, c'est un très bon livre que je vous recommande, « Je loue, donc je vis ».
Du père Alain Dumont.
Exactement.
Aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup, Simon.
Ça fait plaisir.
Brigitte.
Ça me fait penser à Richard Desjardins. Ah, louons le Seigneur, 100 piastres par semaine. J'adore cet album.
Ouais, très bon jeu de mots.
Alors, je veux vous parler de Seven Psalms de Paul Simon, qui vient de sortir, en tout cas, il est sorti au mois de mai, et qui est un CD, mais aussi on peut le trouver en vinyle, on peut le trouver en streaming, gratis sur YouTube. C'est 33 minutes, un album. En fait, c'est un 7 psaumes. De 33 minutes, mais en 7 mouvements. Alors, pensez-vous qu'il y a du hasard là-dedans?
Non.
33
L'âge
minutes.
L'âge du Christ, le chiffre parfait de Dieu.
7 mouvements. Et la première...
Là, tu parles de Paul Simon,
Paul
le gars
Simon,
de Simon Garfunkel.
Oui, mon cher.
Il est encore en vie, lui.
Il est encore en vie. Il va bientôt, en octobre, avoir 82 ans. Et écoute, ça me fait penser... J'écoutais l'album, là. J'ai jubilé, là. C'est... excellent, du début jusqu'à la fin. Ça s'écoute d'une traite en 33 minutes. Là. Et c'est vraiment c'est comme un pèlerinage, un questionnement intérieur sur Dieu. Qui est Dieu? Puis il y a de la louange.
Ah,
Et l'album se termine par un « Amen! »
C'est son chant du signe, peut-être, d'une
certaine manière. Écoute, ce gars-là, il est juif, OK? Et je pense qu'il est en train de se convertir au Christ.
On va mettre un journaliste là-dessus. Là. On va essayer d'enquêter
sur la
question.
J'essaie, OK? Je vais essayer d'y parler. J'aimerais tellement ça. Parce qu'il y a des... Justement, il y a des vers qui sont... Ben, tu sais, c'est l'écriture de Simon and Garfunkel. Mm. C'est, je veux dire, c'est pas nouveau, tu sais, leur tune. C'était tellement poétique, mais c'est resté. C'est resté. Ouais. Et là, je dirais que c'est son 15e album solo à Paul Simon. Il est en train de devenir sourd de l'oreille gauche et il s'est réveillé une nuit en 2015. Il raconte ça sur YouTube. Il s'est réveillé une nuit et quelqu'un lui a dit « Tu écris 7 psaumes ouais. ». Mais il dit « C'est quoi ça, un psaume? Je ne sais même pas c'est quoi ». Fait qu'il est allé voir sur Google, c'est quoi un psaume? Il disait, ah, c'est biblique. Alors, il est allé dans la Bible et il a lu les 150 psaumes. Il dit, mais je suis pas capable d'écrire comme ça. Puis il dit, je me suis réveillée comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, entre 3h et 5h du matin. C'est drôle, moi aussi, c'est toujours là que ça me vient. Et tout ce qu'il avait, c'était des mots, juste des mots. Alors, il s'est mis à écrire des mots, puis dès qu'il a commencé à avoir des mots qu'il pouvait... Il disait, je pourrais faire une belle phrase avec ça. Ah! Il perdait l'oreille. C'était comme... Alors, il raconte ça et il dit, il y avait quelque chose de surnaturel. Mm. Puis dans son questionnement, écoute, à un moment donné, il dit, « The Lord is the face of the atmosphere. » Tu sais, c'est comme, wow! Il y a vraiment des vers incroyables. C'est à écouter et réécouter. C'est bon, c'est du bonbon.
Merci beaucoup, Brigitte. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado ou vidéo en tout temps sur Facebook, YouTube ou sur votre plateforme préférée. Pour tous les détails, visitez leverbe.com. On se retrouve très bientôt pour une autre émission dont n'est pas du monde.